Pourquoi est-ce que le Seigneur est venu dans ce monde? Pourquoi est-il venu dans le monde? La Bible répond à cela, et l'évangile de Luc, Luc, dans son évangile, dit au chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et puis, dans l'épître aux Romains, au chapitre 15, une autre réponse nous est donnée par l'apôtre Paul. Je lis au verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de la miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Jésus est venu pour prouver la véracité de Dieu en accomplissant les promesses faites au peuple d'Israël et pour régner sur toutes les nations. Tous les peuples, ici le mot c'est ethnos, ethnie, tous les peuples, Jésus a en vue tous les peuples, que tous les peuples l'adorent. Et puis en 1 Jean chapitre 3 verset 8, Jean dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Trois pensées. Jésus est venu pour sauver, elle est perdue. Jésus est venu pour être glorifié dans toutes les nations qui reçoivent son salut. Et puis Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dieu a donc envoyé son Fils dans le monde pour vaincre Satan, le prince usurpateur de ce monde, afin d'arracher les pécheurs à l'esclavage spirituel et les introduire dans le royaume de Dieu, de sorte que les rachetés de toutes les nations le glorifient à cause de sa grâce. Maintenant, il faut encore dire une autre chose. Jésus a remporté la victoire sur le diable. Il a accompli le sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et il a commencé à répandre la bonne nouvelle dans ce monde. Mais il nous demande d'entrer nous-mêmes dans son œuvre. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De sorte que, en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à poursuivre l'œuvre de Christ. Et c'est comme ça que Jésus a salué, si on peut dire, ses frères et sœurs. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un ordre qu'il nous est donné à nous, pas simplement aux apôtres du premier siècle, parce que la promesse est là. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les apôtres ne sont plus, mais la promesse tient jusqu'à la fin de ce monde. Et donc cette promesse, elle est pour nous. Jésus est avec nous pour qu'on puisse aller et faire de toutes les nations des disciples. Pour poursuivre l'œuvre de Christ, nous devons garder en tête trois grandes vérités qui nous sont présentées dans ce passage. La première vérité, voilà. Comme ça, vous avez les trois d'un coup. La première vérité, c'est d'être conscient de la puissance destructrice du diable. La seconde vérité, c'est d'être conscient de la puissance libératrice de Jésus. Et puis, enfin, cette troisième vérité, là, d'être conscient de la puissance d'une vie transformée. Regardons tout d'abord la puissance destructrice du diable. De tous les récits où Jésus fait face à des démons et les chasse, celui-ci est incontestablement le plus spectaculaire. Il est raconté dans les trois évangiles synoptiques, et puis il nous, Matthieu, Marc et Luc, et il nous est donné avec force détail ici dans ce passage. La scène se déroule dans un territoire païen, à l'est de la mer de Galilée, dans la région qui est appelée ici la Décapole, Décapolis, qui est donc, sont des, un regroupement de 10 villes grecques, donc des païens, qui se, sont sous une administration largement païenne. On est donc en territoire païen, en territoire ennemi, ce que confirme la mention d'un troupeau de pourceaux qu'aucun juif digne de ce nom n'aurait osé garder. Notez qu'il est question de 2000 bêtes. 2000 porcs, 2000 bêtes. On est loin des sympathiques trois petits cochons, là. Hein. C'est 2000 bêtes. Notez aussi que les démons ne veulent pas quitter le pays. Quand Jésus veut les chasser, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays, verset 10. Qu'est-ce qui les retenait dans ce pays? Visiblement, ce n'est pas les plages, parce que là, il nous est parlé de pentes escarpées dans lesquelles se sont juste... Donc, ce n'était pas les plages, ce n'était pas les, le climat qui retiennent ces démons. Non, c'est l'environnement humain, la culture païenne qui leur permet de sévir librement. Et bien que les démons agissent généralement dans la société en promouvant l'erreur, le mensonge, la fausse religion et l'immoralité, la possession démoniaque correspond à une forme extrême d'assujettissement d'une personne. Dans ce cas, il y a plusieurs esprits mauvais qui contrôlent l'intelligence, le corps et la voix même de l'être humain. Il y a quelque temps, je me suis retrouvé en face d'une personne. Et elle criait au secours, au fond. Et je lui dis, on va prier. J'arrivais mal à discerner son besoin, et j'ai dit, on va prier. Et au moment où j'ai commencé à prier, on était assis sur une chaise chacun, elle a commencé à s'agiter. Elle tremblait sur la chaise. Et elle s'agitait dans tous les sens, et une voix est sortie, disant, « Non, elle m'appartient !» Je peux vous assurer que j'étais terrorisé. Et le seul recours que j'ai eu, c'est de prier. Et on a bagarré dans la prière. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais probablement un quart d'heure, une demi-heure. À la fin de cela, elle était apaisée. Et moi, j'étais épuisé. Épuisé, littéralement épuisé. Par cette expérience. Et quand je vois cet homme rempli de tous ses démons et la détresse qu'il a connue probablement pendant des années, c'est la situation probablement la pire qu'on puisse connaître. Et si la possession démoniaque peut s'accompagner de symptômes physiques, hein, ici dans notre passage, il est dit qu'il était dans les sépulcres et il criait. Il criait, et dans le sens ici, c'est il criait constamment. Il hurlait constamment. On peut imaginer que dans tous ces sépulcres-là, les gens faisaient un grand détour pour ne pas avoir à entendre ses cris et ne pas être menacés par cet homme. Il criait, et puis se meurtrissait avec des pierres, il se blessait. Et donc, si la possession démoniaque peut s'accompagner de symptômes physiques, c'est un phénomène surnaturel. qui transcende toute explication scientifique, psychologique ou médicale. Le pauvre homme, décrit dans ces versets, il était soumis à des attaques cycliques. Parfois, il était assez calme pour que les habitants du pays puissent s'approcher et puis l'enchaîner. Mais lors de ces crises, en revanche, ses forces décuplaient, il brisait même les chaînes et il se libérait. Il errait parmi les tombes, il poussait des cris stridents, il se lacérait le corps. Bref, cet homme était déjà dans la phase ultime de la destruction infligée par les puissances démoniaques. Le diable est le prince usurpateur de ce monde. Il est rusé, il est menteur et il est meurtrier dès le commencement, nous dit la parole de Dieu. Il est le tentateur qui excite à la désobéissance et à la révolte contre Dieu. Il est l'adversaire qui se jette au travers des progrès de l'Évangile. La Bible dit qu'il aveugle les incrédules. Paul dit en 2 Corinthiens 4, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Le diable et ses démons ont pour vocation principal de s'opposer au plan rédempteur de Dieu. Ça, c'est leur job, s'opposer au plan rédempteur de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le ministère qui nous a été confié de poursuivre la proclamation de l'Évangile parmi toutes les nations, il faut être conscient de la puissance de l'ennemi. Paul dit en Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Pour le travail, pour la mission qui nous a été confiée, nous devons utiliser des armes spirituelles. Nos armes spirituelles, c'est la prière. Nos armes spirituelles, c'est la parole, l'épée de la parole, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de la justice. Il faut être conscient qu'il y a une bataille plus grande, dans des lieux célestes, dans des choses que l'on ne voit pas. Et pour pouvoir lutter, on a besoin d'armes spirituelles. La deuxième pensée, la deuxième vérité à avoir en tête, c'est la puissance libératrice de Christ. Dans le passage précédent, chapitre 4, versets 35 à 41, Jésus fait preuve de son pouvoir sur les forces de la nature en maîtrisant complètement le vent et les vagues. Au point que, il faut comprendre ce que ça signifie, on a déjà vu une tempête se calmer, on a déjà vu le vent s'arrêter, s'ensuit un grand calme. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé là. Quand ils étaient sur cette barque, au moment où le vent s'est arrêté, la mer est devenue d'huile, instantanément. Normalement, quand le vent se calme, la houle continue. Mais là, le vent s'est arrêté net, et les vagues, la mer s'est calmée net. Et c'est cela qui les a saisis. Ils disent... Ils furent saisis d'une grande frayeur, verset 41, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dans le passage qui nous occupe aujourd'hui, Jésus exerce sa souveraineté absolue sur les forces du domaine surnaturel, spirituel. Dans le verset 6, Il nous est dit, ayant vu Jésus de loin, il a accouru et se prosterna devant lui. Les démons qui ont pris possession de cet homme peuvent sentir la présence glorieuse du roi de l'univers et ils paniquent. Poussés par l'effroi, les démons sont complètement soumis devant, devant leur juge. Et ce qu'aucun être humain n'a pu dompter, pas même à l'aide de cordes et de chaînes, Jésus l'accomplit par sa seule présence. Tremblant, en présence de leur juge divin, les démons craignent que Jésus les jette immédiatement dans l'abîme. Ça, c'est l'évangile de Luc qui nous apprend cela. Les démons disent « Ne nous jette pas dans l'abîme !» Ils savent que déjà, des démons ont été enfermés et enchaînés dans l'abîme. Ils savent que Dieu a fixé un temps pour les juger. Mais ils savent aussi que le jour fixé pour leur châtiment est encore futur. Et c'est pourquoi le démoniaque s'écrie « Qui a-t-il entre moi et toi ?» Et puis il ajoute dans l'évangile de Matthieu « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ils savent qu'ils vont être réduits au tourment éternel. Ils savent qu'il n'y a pas de rédemption pour eux. Mais ils ne comprennent pas, ce n'est pas l'heure. Alors les démons ne peuvent que le supplier de leur accorder encore un sursis avant de les condamner dans l'abîme. Et Jésus demande le nom de ces démons et il le fait pour une raison simple. Il veut démontrer l'étendue de son pouvoir sur le territoire de Satan. À cette époque-là, une légion romaine pouvait compter jusqu'à 6000 hommes. Jésus veut montrer qu'une légion de démons ne peut résister un seul instant à sa puissance. Et c'est aussi pour cela que Jésus accède à leurs supplications, hein, à ces démons qui ne semblent pas vouloir quitter la région, et ils souhaitent entrer dans d'autres corps. Hein, au verset 10, il est dit... Et il le prie instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Et verset 12, et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et en accordant à ces démons la permission d'entrer dans ces pourceaux, Jésus révèle la véritable ampleur de leur force destructrice et mortelle. Et du même coup, il met en lumière hein, la glorieuse supériorité de son pouvoir. La scène, elle est spectaculaire et elle prouve de façon forte et indéniable que les esprits mauvais sont vraiment sortis de cet homme, puisqu'ils ont entraîné tout un troupeau dans la mer. Et la seule puissance capable de les assujettir, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comment s'exprime cette puissance libératrice de Christ? Il y a des gens qui se sont intéressés à ces questions, qui jettent de l'eau bénite, qui montrent, élèvent des crucifix, récitent des prières incantatoires ou je ne sais quoi. Comment s'exprime la puissance libératrice de Christ? C'est-à-dire, comment le diable et ses démons sont-ils vaincus dans leur tentative d'opposition à l'œuvre rédemptrice? C'est par la croix. Par la croix de Christ. Le diable est entré dans Judas, qui avait livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Le diable a séduit les chefs religieux juifs et les autorités romaines, pour commettre la plus grande injustice qui soit. Faire mourir le seul juste. Mettre l'innocent au nombre des malfaiteurs et le crucifier. Mais en agissant ainsi, ils ont malgré eux accompli le plan souverain et rédempteur de Dieu, signant par là même leur propre perte. Aussi, Paul, en Colossiens chapitre 2, versets 13 et 15, s'écrit ceci. Colossiens chapitre 2, verset 13, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » C'est-à-dire, c'est comme si tout ce que nous avons fait, tout ce dont nous nous sommes rendus coupables, était listé. Et puis, fixé sur la croix. Et ça, c'est l'acte qui nous condamnait. Et au lieu que ce soit nous qui montions sur la croix, Christ a pris notre place. Il dit, cet acte qui subsistait contre nous a été cloué sur la croix. Et regardez verset 15. Et il a dépouillé les dominations, ça ce sont les démons, et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les démons et les puissances, le diable et les puissances démoniaques ne sont vaincus que d'une seule manière. Par la proclamation de l'Évangile, par la croix de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il peut s'exprimer en Romains chapitre 1 et au verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est par l'Évangile que Dieu fait reculer les ténèbres. C'est par l'Évangile que les âmes sont délivrées de la puissance de Satan. C'est par l'Évangile que les pécheurs sont pardonnés de tous leurs péchés. C'est par l'Évangile que le ciel nous est acquis pour toujours. Voilà la puissance libératrice de Jésus-Christ. Enfin, il faut être conscient de cette puissance, la puissance d'une vie transformée. Si quand on doit partir pour poursuivre l'œuvre de Christ, le seul message qu'on puisse annoncer, c'est l'Évangile. La seule chose que j'ai pu faire devant cette personne possédée, c'était de prier, et dans ma prière, de présenter l'Évangile. La puissance d'une vie transformée. Personne ne peut nier que Jésus a fait preuve d'une puissance divine. Personne non plus ne doute de la transformation de l'ancien démoniaque. Il le voit maintenant au verset 15, il est assis, vêtu et dans son bon sens. Lui qui était un fou furieux, nu, qui courait en train de se lacérer en hurlant, il est assis, vêtu. Et dans son bon sens. Pourtant, en face d'une preuve aussi irréfutable, le cœur des habitants reste froid et impénétrable. Confrontés à la présence de Dieu le Fils, et saisis de frayeur, ils le prièrent de quitter leur territoire immédiatement. Ils préfèrent les pourceaux aux êtres humains et leur sécurité financière à la transformation d'une vie. Contrairement à eux, l'ex-démoniaque ne veut pas vivre un jour de plus sans Jésus. Son âme tourmentée est née de nouveau. Il est tout excité. Il veut suivre le Seigneur maintenant. Il m'a redonné une vie. Il se sentait comme complètement perdu, comme déjà mort ou comme déjà en enfer. Et puis là, il est changé en un instant, délivré de cette puissance démoniaque. La seule chose qu'il ait en tête, c'est « Je veux rester avec toi, Jésus. Maintenant, je veux te suivre partout où tu iras, j'irai. Maintenant, ma vie t'appartient. Je veux vivre pour toi. » Ce qui me frappe, c'est que Jésus lui dit « Va dans ta maison et vers les tiens. » Quand j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment ému. Cet homme, il était dans les sépulcres. Il courait nu, lacéré. Sa vie était un enfer. Et pourtant, là, à côté, il avait une maison. C'est oikos. En grec, oikos, c'est plus que simplement le logis, le toit. C'est une famille. Il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui se désespéraient de savoir que cet homme était dans cet état lamentable. Et une fois qu'il retrouve son intégrité, la seule pensée qu'il a, c'est pas de retourner dans sa maison et retrouver sa famille, c'est être avec Jésus. Ça, c'est la preuve d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Jésus a dit, hein, si quelqu'un ne me préfère pas à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Lui, il a pris cette conscience. J'aime le Seigneur et je veux le suivre. Il aime mieux être avec Christ. Et en tant que nouveau croyant, il demande au Seigneur de lui permettre de l'accompagner. Mais Jésus, il a d'autres projets pour cet homme. Il lui demande d'être missionnaire chez lui. Par sa vie, radicalement transformé, l'ancien démoniaque, il était connu de toute la région. Il fera rayonner la gloire transformatrice de l'Évangile. Tout simplement en étant là. Juste par sa présence. Juste à cause de la transformation de sa vie. Il est un témoignage à la puissance libératrice de l'Évangile. La seule chose qui lui, seul message que Jésus lui donne, c'est raconte ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Et je suis frappé quand même de la parole de Jésus, de cette réponse. Quand même, il n'y a pas encore d'église dans cette région, dans la Décapole. C'est toujours un territoire païen. C'est toujours un endroit où se plaisent les démons. Est-ce que ce n'est pas dangereux, Seigneur, de l'encourager à rester dans cet endroit? Si Jésus l'a fait, c'était le bon choix. Ça veut dire aussi que ceux qui appartiennent à Christ, ils sont habités par le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas à craindre les puissances démoniaques. Ils n'ont pas à redouter la possession, d'être possédés à nouveau par ces démons. Parce qu'ils sont le temple de l'Esprit de Dieu. Et comme l'apôtre Jean le déclare à ses lecteurs, il dit « Celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et ça, c'était la sécurité pour cet homme. Avec celui qui est en nous, on peut aller partout dans le monde. Et c'est pourquoi Jésus, il n'hésite pas un instant et il l'envoie comme témoin, comme son ambassadeur, avec la puissance d'une vie transformée et conduite par le Saint-Esprit. Au verset 19, il dit au démoniaque, Marc 5, 19, « Va dans ta maison et vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Mes frères et sœurs, Jésus nous envoie comme missionnaires dans nos maisons, dans nos familles, dans notre région. Et avec l'ordre de mission, il y a toute la puissance de l'Évangile et toute la puissance d'une vie transformée. Racontez tout ce que le Seigneur vous a fait et comment il a eu pitié de vous. Réfléchissez à cela. Réfléchissez à ce qu'aurait été votre vie sans l'intervention miraculeuse du Seigneur, sans ce jour où il vous a arrêté dans votre folie. Imaginez ce qu'aurait été votre vie si vous aviez été livré simplement à vous-même. Je sais pour ma part, ma vie serait en loque, une loque, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan familial. Je sais que Dieu m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé, non seulement de mes péchés passés, de tout ce qui a corrompu ma vie, tout ce qui mérite la condamnation, mais il m'a aussi sauvé de ma propre vie et du désastre que j'aurais mené et tous les péchés que j'aurais encore faits. Oui, Dieu nous a sauvés. Racontez-le. Dites-le autour de vous. Comment il a agi dans votre vie. Comment vos péchés sont effacés. Comment vous avez de l'assurance face à la mort, face à l'éternité. Racontez-le. Montrez comment il a eu pitié de vous, comment sa grâce s'est manifestée envers vous. Au verset 20, il est dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Vous vous rendez compte, Jésus est venu pour cet homme seulement. Il a traversé le lac de Galilée, la mer de Galilée. Il a débarqué sur cette région. Il a délivré cet homme et il est reparti. Quelque temps plus tard, il reviendra dans cette même région. Et l'évangile de Marc au chapitre 7 dit cela, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr. Et il revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains et il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Pourquoi, lorsque Jésus est venu dans la Décapole, on est venu lui apporter cet homme sourd, muet? Le seul témoin de Christ dans toute cette région, c'est notre homme. Notre homme, notre ex-démoniaque. Et il a répandu le témoignage de Christ. Et c'est parce qu'il a répandu le témoignage de Christ qu'on a fait venir cet homme. Regardez un peu plus loin, en ces jours-là, chapitre 8, verset 1. Une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Et ça, c'est la deuxième multiplication des pains, cette fois-ci pour 4000 personnes. D'où vient cette foule? D'où viennent tous ces gens, ces 4000 personnes qui sont prêtes dans un lieu désert? Il n'y a rien dans toute cette région. Et ils sont là pour écouter Jésus. Et ça fait 3 jours qu'ils ne veulent qu'écouter Jésus. Je vous dis, c'est le témoignage. C'est le témoignage de ces démoniaques associés au témoignage de ce sourd muet guéri qui a porté un témoignage si fort dans toutes les décapoles que les 4000 personnes sont venues s'approcher du Seigneur Jésus et entendre le message de son évangile. C'est la puissance d'une vie transformée. C'est la puissance d'une vie transformée. Gardez cela en tête. Oh oui, il y a une puissance, et il faut être conscient, la puissance destructrice du diable qui s'oppose constamment à l'œuvre de l'Évangile. Il y a aussi une puissance libératrice de Jésus-Christ par l'Évangile. Et puis il y a aussi la puissance d'une vie transformée. Oh, que Dieu suscite cette compréhension de ces vérités dans nos cœurs, pour qu'on puisse aller et faire de toutes les nations des disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et au tout début de l'évangile de Jean, Jésus, quand il a appelé ses premiers disciples, il a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Ça veut dire que dans la pensée de Jésus, un disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus n'a pas d'autre intention quand il nous appelle à le suivre que de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Et on doit avoir cette même pensée. Comme c'est cet ordre qui a été donné à ce démoniaque d'aller dans nos maisons et de raconter tout ce que le Seigneur nous a fait et comment il a eu pitié de nous. Avec cet ordre, simplement, il a juste obéi. Il aurait voulu suivre, il a obéi à son Seigneur. Obéissons de la même manière. Tenons-nous avec nos vies transformées comme seul témoignage. Et puis racontons avec nos bouches ce que le Seigneur a fait pour nous. Que Dieu nous bénisse.